Transistor.
La culture domine tout.
Transistor.
Web.
Bienvenue dans la tracklist. Aujourd'hui, on se replonge dans l'un des événements les plus traumatisants du rock, le festival d'Altamont, donné par les Stones en 69 en Californie. Alors, pour beaucoup de personnes, le concert emblématique des 60s, c'est Woodstock, avec ses scènes de liesse collective, avec ses hippies nus qui gambadent dans les champs en se prenant gentiment par la main. Altamont, c'est l'exact opposé de tout cela. Altamont, c'est le double maléfique de Woodstock, un Woodstock revisité à la sauce satanique. Bad trip, baston et meurtre, telle est la diabolique trinité d'Altamont. Un concert qui donnerait presque raison aux vieux puritains qui pensaient que le rock était la musique du démon. Revenons brièvement sur la genèse de ce concert infernal. On est en novembre 69 et les Stones font une tournée aux States. Le but de cette tournée éclair de 2 mois, c'est de mettre de l'argent dans les caisses du groupe parce que les Stones commencent vraiment à être fauchés. Les Stones n'ont pas été conviés à Woodstock, l'événement rock de l'année et peut-être même de la décennie, ce qui les frustre terriblement. Pour réparer cette injustice, ils développent un projet extrêmement ambitieux, donner un immense concert gratuit à San Francisco, soit la capitale psyché de l'époque, un concert qui réunirait ce que le folk rock et le rock psyché de la Californie comptent de meilleur. Grateful Dead, Jefferson Airplane, etc. Bon, très clairement, il s'agit de produire un Woodstock de la côte ouest. L'idée est excellente, mais la mise en place du concert est complètement erratique. Le concert est initialement prévu dans le circuit automobile de Sears Point, mais quelques jours avant le début des hostilités, le proprio du site se réveille, il exige l'exclusivité des droits de distribution sur tout film réalisé pendant le concert, ainsi qu'un $1 million. C'en est trop pour Jagger, hein, qui refuse de céder, et les Stones doivent trouver en hâte un nouvel endroit. Cet endroit, ce sera finalement le Stock Car d'Altamont, qui est quand même situé à 130 km du lieu initialement prévu. Bon, clairement c'est le bordel, le contrat est conclu la nuit du 4 décembre, soit moins de 2 jours avant le début du concert. Du coup, il faut démonter et remonter le matos en hâte, et beaucoup de hippies apprennent par la radio que le lieu a changé, et ils doivent se réorienter précipitamment. Pour couronner cette organisation d'enfer, le manager des Stones confie la sécurité aux Hells Angels sur recommandation du Grateful Dead. En gros, les Hells Angels, ce sont des motards vénères qui roulent à tombeau ouvert sur les autoroutes américaines et qui sont liés à des activités de crime organisé. Ces gaillards furibonds sont rétribués $500 en bière à Altamont. Donc, dès le début, on se doute que quelque chose cloche. Demander à des bikers complètement torchés d'assurer la sécurité d'un festival, c'est aussi réaliste que de demander à Keith Richards de rester clean plus d'une demi-journée. Yes. Dès le vendredi 5 décembre, des milliers de hippies affluent vers le circuit d'Altamonte. On attendait dans les 100 000 spectateurs, finalement il y en aura 300 000. Comme on peut s'en douter, la logistique laisse à désirer, hein. L'endroit le plus proche où se garer est un tronçon d'autoroute inachevé situé à 12 km du site, donc c'est quand même pas très très pratique. Les spectateurs laissent donc leur caisse en plein milieu de cette route et ils coupent à travers champs pour se rendre à Altamonte. En ce vendredi 5 décembre, les choses se déroulent plutôt bien et on pourrait presque se croire à Woodstock. Il fait beau, des ados gobent gentiment des pilules de LSD, des filles se baladent à moitié nues, bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes hippies. Seule différence notable avec Woodstock, c'est Hells Angels vêtus d'agressivité très peu candide et de cuir noir. Ces anges de l'enfer contrastent avec le look peace and love des spectateurs et ils créent comme un léger malaise. Dès le début du concert, le samedi 6 décembre, la situation s'envenime. Premier bad trip, premier baston. Tandis que Santana est en train de jouer, des bagarres éclatent entre les spectateurs et les Hells Angels qui carburent à la bière et aux enfêtes. Concrètement, les Hells Angels agressent quiconque a le malheur de s'approcher un peu trop près de leur bécane et, comme ils ont eu la bonne idée de les foutre en plein milieu de la scène, les spectateurs s'en approchent inévitablement. On assiste donc à des scènes ultra violentes qui rappellent Orange Mécanique. Les Hells Angels, armés de queues de billard, tabassent les malheureux qui ont effleuré leur Harley. Pendant le concert du groupe Psyché et Jefferson Airplane, la tension monte encore d'un cran. Alors que le groupe est en train de jouer The Other Side of His Life, un jeune afro-américain se fait frapper par les infatigables Hells Angels. Le chanteur Marty Balin tente de l'aider en balançant son tambourin à la gueule d'un des Hells Angels, et il reçoit en échange un coup de queue de billard en plein sur le crâne, ce qui le sonne complètement. S'ensuit une engueulade surréaliste entre les membres du groupe et les Hells Angels qui n'aiment pas trop qu'on leur donne de leçons. Cyne Anderson, donc l'autre chanteuse du groupe Jefferson Airplane, appelle tout le monde au calme, mais bon, son discours peace and love ne semble pas vraiment affecter les Hells Angels. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find L'ambiance est tellement mauvaise que le Grateful Dead, le groupe psyché de la côte ouest, décide de ne pas monter sur scène. Jerry Garcia, leader du groupe et grand pacifiste dans l'âme, ne goûte pas vraiment les méthodes pour le moins musclées des Hells Angels. On se demande quand même pourquoi il a conseillé aux Stones de les engager, mais bon, ça c'est un autre débat. Quand Crosby, Stills, Nash & Young, autre groupe phare de la côte ouest, monte sur scène, l'ambiance est vraiment lourde. Le public est instable, complètement stone, et les Hells Angels sont bien déchirés. Les $500 de bière commencent vraiment à faire leur effet. Le groupe californien expédie son set en vitesse et disparaît aussitôt, bien content de délaisser cet attroupement de cinglés. J'ai senti la musique mourir cette nuit-là, nous dit même Neil Young, qui ne connaissait probablement pas l'Eurovision. À 3h du mat', les Stones montent sur scène. Un hippie défoncé a foutu une beigne à Jagger dans l'après-midi, mais ça va, visiblement, il s'en est remis, et là, il a de l'énergie à revendre. Alors que le groupe entame son troisième morceau, Sympathy for the Devil, une baston éclate, ça crie de partout, on entend à peine le groupe. Jagger fait penser à un jeune prof inexpérimenté envoyé dans une classe de 4e survoltée. Il demande au public de se calmer et le gronde gentiment, il est vraiment à deux doigts de mettre des mots dans le carnet.
Try and stop it. Hey people, sisters, brothers and sisters, come on now. That means everybody just cool out. Will you cool out, everybody? I know, I'm here. Everybody be cool now, come on. All right? How are we doing over there? All right? Can we still make it down the front? Is there anyone there that's hurt, huh? Everyone all right? Okay? All right? I think we're cool, we can go. We always have something very funny happens when we start that number.
Les Stones reprennent le concert, mais un événement tragique survient 15 minutes plus tard, un événement qui marquera l'histoire du rock à jamais. Pendant que les Stones sont en train de jouer Under My Thumb, Meredith Hunter, un jeune afro-américain âgé de 18 ans, braque un gun sur Jagger. Aussitôt, un Hell Angel enragé lui saute dessus, un couteau à la main. Hunter mange le sol et se fait tabasser à mort par une meute d'Hells Angels complètement incontrôlable. Et ce, juste devant la scène, hein, juste devant les Stones qui étaient en train de jouer. L'autopsie révélera qu'il a reçu 5 coups de couteau. Ironie du sort, le coup de couteau tragique est porté au moment où Jagger chante « I pray that's alright ».
We're splitting, man, if those cats don't stop beating everybody up inside. I want them out of the way, man. Hey, I don't like uniforms.
That guy's got a gun out there and he's shooting at the thing.
He's got a gun. Hey, people. Hey, people. Come on, let's be cool. People, please. There's no reason to hassle anybody. Please don't commit it.
If you move back and sit down, we can continue and we will continue.
Ce qui est assez fascinant, c'est que ce meurtre a été filmé en direct. Dans Gimme Shelter, le reportage de référence sur Altamont, on voit assez distinctement le jeune Hunter prendre un coup de surin. On voit également le flingue de Meredith, mais étrangement, on n'a jamais pu le retrouver. Donc il y a comme un mystère qui plane autour de cette affaire. Au moment où ça arrive, les Stones n'ont pas vraiment conscience de ce qui vient de se passer. Hein. Ils pensent sûrement qu'il s'agit d'une énième baston, faut les comprendre, il y en a eu beaucoup dans la soirée. Et imperturbable, il continue de jouer. Au petit matin, c'est toute une génération qui a la gueule de bois. Le mouvement hippie est mort pendant la nuit. Le bilan est très lourd, on apprend que 3 autres personnes sont mortes d'une manière sordide au cours de la soirée. 2 enfants ont été écrasés dans leur sac de couchage par un chauffard sous acide, et un homme qui avait un peu trop forcé sur le LSD s'est noyé dans un canal d'irrigation. La messe noire est dite. On commence vraiment à penser que les Stones ont fait un pacte avec le diable et qu'ils ont troqué leur âme contre l'éternelle genèse du rock'n'roll. Eux s'en défendent et seront longtemps traumatisés par ce concert infernal. Ils mettront d'ailleurs 3 ans avant de revenir jouer aux States. Et ils garderont une certaine rancœur à l'égard de ces Hells Angels qui ont complètement saboté leur festival. Un ancien du FBI a même affirmé que les Hells Angels avaient projeté d'assassiner Jagger à l'issue du concert, mais bon, il s'agit peut-être d'une légende urbaine. Ainsi s'achèvent les 60s, avec quelques semaines d'avance. Fini les utopies généreuses, et les fleurs du mal ont poussé sur le terreau du Flower Power. Le mouvement Peace and Love est mort, poignardé à Altamont. Le rêve prend fin, The Dream is Over, comme le chantera plus tard John Lennon sur son morceau God. À la fin du reportage Gimme Shelter, on voit les hippies quitter Altamont. Ils marchent d'un air morne, désabusé. Ils ont compris que la douce parenthèse 60s était terminée. Fini le rock psychédélique, le Grateful Dead, Jefferson Airplane. Demain, on écoutera les Eagles et leur rock bourrin sur la FM. Fini le style christique, demain faudra se couper les cheveux, raser la barbe et troquer le pantalon à fleurs pour un costume 3 pièces. Fini les après-midi à rien glander, à fumer du hash avec les copains en rêvant de Katmandou. Demain faudra dégoter un job à la con, reprendre la boîte de papa ou bosser dans les assurances. Englué dans un pavillon bidon d'une banlieue quelconque, on se remémorera avec quelques nostalgies les 60s. On s'était quand même bien marré globalement, même quand ça a merdé, comme à Altamont. Et puis, on aura au moins eu l'immense privilège d'assister au crépuscule d'une utopie.